liens terriens et autres formes de vie. Sachez-le, la vérité est sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. Espace, frontière de l'infini vers laquelle je voyage. Ma mission, explorer la littérature, le cinéma et la télévision, découvrir les grands thèmes du fantastique et de la science-fiction et, au mépris du danger, reculer l'impossible. Joignez-vous à moi et partez explorer de nouvelles planètes, des mondes étranges, rencontrer des créatures merveilleuses ou effrayantes, mais surtout, restez prudents, car ils sont parmi nous. Bonjour et bienvenue à tous pour la première émission de cette saison 4 de l'Heure Fantastique.
L'émission consacrée au fantastique
sous toutes ses formes. Au cours des saisons précédentes, nous avons exploré l'univers de la science-fiction, de l'héroïque fantasy, du merveilleux,
parfois du gore,
et nous avons évoqué des thèmes variés,
mais toujours sympathiques,
tels que le voyage dans le temps, les zombies, les dinosaures, les mondes post-apocalyptiques, la geste arthurienne ou les robots. Nous avons aussi consacré certaines émissions tout entières à une œuvre en particulier.
Ce fut le cas de la spéciale HeroCorp, de la spéciale Goal of the Dead ou encore de la spéciale Mortus Corporatus.
Et ce fut à chaque fois l'occasion d'interviews super classe avec les équipes de ces films ou séries. Fallait-il tout de même se garder un peu de côté quelques thèmes sympatoches pour cette saison 4 que nous allons ouvrir sur un tel classique qu'on se demande pourquoi nous ne l'avons pas abordé plus tôt. Car qui dit science-fiction dit...
Robot ?
Non, ça on l'a déjà fait, suis un peu. Donc, qui dit science-fiction dit...
Espace !
Oui, quittons la Terre et partons naviguer jusqu'aux frontières de l'inconnu.
Et au-delà !
Bien dit. On se fait un petit sommaire ?
Ok, alors, voilà ce qui va se passer.
On va commencer par la chanson de Fred, puis nous irons faire un tour du côté des œuvres incontournables de la SF spatiale. Je vous le cache pas, il y aura pas mal de titres qui comprendront le mot star.
Viendra ensuite l'interview du fan, la rubrique de la bibliothèque jeunesse de la fantastique Coralie, dans laquelle nous écouterons les précieux conseils de Coralie, qui emmènera les jeunes lecteurs faire une petite balade au milieu des étoiles. Puis, ce sera le tour de la rubrique de la débutante, dans laquelle Karine ira à la découverte d'un grand classique du cinéma de SF.
Ce sera ensuite, bien sûr, le moment de la rubrique du film de Pucelle. Parce que oui, il y a aussi des jouvencelles dans l'espace. Et enfin, comme d'habitude, les conseils. Si un petit tour en vaisseau spatial vous tente, restez bien à l'écoute. Car nous recevons ce mois-ci une invitée, Florence Porcel, qui nous fera partager son savoir et ses astuces.
Et pour ouvrir le bal, tout de suite, la chanson de Fred, qui nous fait une petite cover de la BO du film H2G2, adapté du roman éponyme de Douglas Adams.
So long and thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We'll try to warn you all, but oh dear. You may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around. So long, so long, and sings for all the fish. The world's about to be destroyed. There's nothing getting hot and hard. Life I can let the planet. So hard. Despite the snacks of tuna flakes, we thought that most of you were sweet, especially tiny thoughts in your pregnant womb. of the fish.
Alors, ce n'est pas à bord du Cœur en or, le vaisseau à générateur d'improbabilité imaginé par Douglas Adams, que je vous propose de voyager, mais la balade va bien nous mener jusqu'aux confins de la galaxie, je vous l'assure. Car bien avant que Philae ne se pose sur Tchouri, que l'on puisse avoir de belles photos du cœur de Pluton, avant même que Neil Armstrong ne se la pète en mettant un pied devant l'autre sur la Lune, l'homme a voyagé à travers les étoiles. Plus puissante que tout moteur à propulsion, plus rapide que la vitesse de la lumière, son imagination l'a menée loin, très, 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 très loin, jusqu'aux frontières de l'infini, je dirais.
Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Vous avez reconnu ? Il s'agissait bien sûr du générique de la série Star Trek, diffusée pour la première fois sur la NBC en 1966. Le speech est simple. Un vaisseau, l'USS Enterprise, est envoyé en mission par la Fédération des Planètes Unies pour explorer l'univers, découvrir de nouveaux mondes et de nouvelles formes de vie. Ces explorateurs débarquent donc régulièrement sur de nouvelles planètes, pas toujours très accueillante, et repousse aussi à plusieurs reprises les ennemis de la Fédération, que sont les Klingons et les Romuliens. Sur le fond, le scénario n'est pas très compliqué, même s'il a posé les bases de la SF spatiale pour toute une génération.
Et au-delà.
Mais sur la forme, il y a quelque chose d'assez avancé dans cette série. Quand on repense au contexte historique, 1966, la guerre froide n'est pas terminée, la ségrégation aux États-Unis non plus, la diversité des membres de l'équipage de l'Enterprise est carrément en avance sur son temps. Aux côtés du fameux Captain Kirk, joué par William Shatner, qui finit la moitié du temps par déchirer son t-shirt pour exposer ses abdos à la téléspectatrice ravie, c'est un peu les Nations Unies. Le lieutenant Uhura est une afro-américaine, l'ingénieur en chef Montgomery Scott est écossais, l'enseigne Tchekov est russe, Sulu est nippo-américain, et on a même le très célèbre Spock, l'officier scientifique joué par Leonard Nimoy, qui est moitié humain, moitié vulcain. De Star Trek, on retient ce générique inoubliable que vous avez entendu tout à l'heure. La logique exaspérante et les oreilles pointues du Dr Spock, ainsi que l'héroïsme du Captain Kirk, toujours prêt à sauver son équipage, ses amis, les peuples qu'il rencontre, les jolies jeunes femmes, et finalement l'univers tout entier. On retient également le téléporteur, qui permettait au personnage de passer du vaisseau aux planètes visitées, en faisant une sacrée économie d'effets spéciaux et en faisant entrer le mot « téléportation » dans le vocabulaire. Ainsi que le tout premier baiser interracial de l'histoire de la télévision, lorsqu'en 1968, le Captain Kirk et le lieutenant Uhura s'embrassent dans l'épisode « Les Descendants ». Par la suite, Star Trek est carrément devenue une franchise déclinée en multiples films et séries. Mais je garde une tendresse toute particulière pour la série originale et le beau William Shatner dans son polo jaune, assis sur son siège de capitaine. On se replonge dans l'ambiance une petite minute avant de passer à la suite.
Kirk here.
Security here. We had to stun the Andorian. He had some sort of transceiver. It was hidden in his antenna.
Captain, the alien ship has changed course and speed, moving directly toward us at warp 8.
Bring the prisoner to the bridge. Reflectors on. Red alert. Phaser, stand by to fire on my order.
Aye, sir. Shields on. Phasers. And then ready, sir.
Check out.
Take over Spock scanners.
Aye, sir.
On continue notre petit voyage à travers les étoiles. Vous n'êtes pas tenté par un tour dans l'USS Enterprise ? Qu'à cela ne tienne, j'ai d'autres vaisseaux sous la main dans la catégorie film culte dans l'espace. Allez, je vous laisse deviner.
C'était pas très difficile.
C'était carrément un passage obligé, en fait. Star Wars, c'est un peu...
La base ?
Ouais, voilà. Et ça met même un petit peu la pression de devoir présenter un tel monument. Est-ce que j'ai besoin déjà de vous dire que c'est un film de George Lucas dont le premier opus est sorti en 1977 ?
Tu viens de le faire.
C'est pas faux. Alors, pour vous parler de Star Wars, déjà, il faut comprendre deux, trois trucs au niveau de la chronologie. Les trois premiers films...
Qui se situent il y a fort longtemps dans une galaxie fort lointaine.
La Guerre des Étoiles, sortie en 1977 donc, puis l'Empire contre-attaque en 1980, et Le Retour du Jedi en 83, raconte l'histoire de Luke Skywalker, un jeune homme qui, au contact tout d'abord d'Obi-Wan Kenobi, puis de Yoda, apprend progressivement à devenir un chevalier Jedi, ce qui va lui permettre, aux côtés de la princesse Leia et du capitaine Han Solo, sans oublier son poilu copilote, le Wookiee Chewbacca, de lutter contre l'Empire. Et qui dit Empire, dit méchant.
Méchant, méchant.
Et si le vrai vilain reste l'Empereur, son bras droit représente toute l'attirance du côté obscur de la Force. Vous l'avez compris, on parle de Dark Vador, sa cape noire, son casque intégral et sa respiration flippante. C'est lui que Luke va devoir combattre tout au long des trois premiers films. Alors, attention, si par un hasard extrême vous n'avez jamais vu Star Wars, et qu'en plus vous avez jusque-là réussi à éviter tout spoil, bouchez-vous les oreilles 2-3 minutes, parce qu'on est un peu obligé d'en parler. Ça y est, il n'écoute plus ?
Il devait pas être très nombreux, mais oui, on dirait.
On peut le dire alors. Luke combat donc Dark Vador, usant de la force qu'il a appris à utiliser grâce à Yoda et de son extraordinaire sabre laser, transmis par Obi-Wan. Mais vient un moment, vient LE moment de la révélation. Cette scène culte dont vous vous souvenez forcément. Oui, celle-là.
Obi-Wan never told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No. I am your father.
No. No. That's not true. That's impossible.
Search your feelings. You know it to be true.
No! No!
Cette scène où toi aussi tu as envie de hurler « No, it's impossible !» aux côtés du pauvre Luke.
Pauvre, pauvre, pauvre Luke.
À la fin du retour du Jedi, tout est bien qui finit bien, et on aurait pu en rester là. Après la mort de Dark Vador, il n'y avait plus vraiment de raison de poursuivre.
C'est un peu le principe de la fin.
En 1983 sort tout de même une adaptation, sorte de spin-off, l'aventure des Ewoks, qui nous ramène sur la lune forestière d'Andor, crapahutée dans la forêt, aux côtés de ses adorables petites peluches sur pattes.
T'es mignon ?
Très. Puis, en 1999, 2002 et 2005, sort une seconde trilogie, La menace fantôme, L'attaque des clones et La revanche des Sith. Alors suivez bien, c'est là qu'il ne faut pas se louper dans la chronologie. Les trois nouveaux films sont respectivement les épisodes 1, 2 et 3, tandis que les trois premiers films deviennent du même coup les épisodes 4, 5 et 6. La suite, quoi. Et puisqu'on repart en arrière, on retrouve Dark Vador enfant, sans la cape, le casque et la respiration flippante, en petit blondinet débrouillard et attendrissant, qui, longtemps avant de basculer du côté obscur de la Force, s'appelle encore Anakin Skywalker. Tout l'objet de cette seconde trilogie étant de comprendre ce qui l'amène vers son terrible destin. Aux six films se rajoutent des séries d'animation, des comics, des produits dérivés, un univers. Star Wars, c'est la Force, c'est les sabres laser, et qui n'a jamais rêvé d'utiliser l'un ou l'autre. Star Wars, c'est le Faucon Millennium, ce vaisseau piloté par un hors-la-loi, le capitaine Han Solo et son acolyte Chewbacca, qui filent dans la galaxie pour fuir la flotte de l'Empire ou pour se porter au secours des rebelles. Star Wars, c'est Luke Skywalker qui survole l'étoile de la mort en faisant appel à la Force pour viser le bon endroit et détruire le terrible engin. Comment vous expliquer ? Si vous n'avez jamais essayé d'imiter le cri du Wookiee, de parler comme Yoda, si vous n'avez jamais utilisé votre double décimètre comme sabre laser, si un matin d'hiver, vous ne vous êtes jamais écrié « Quel froid, on dirait la planète Hoth !» Si vous n'avez jamais rêvé d'adopter un Ewok ou un petit droïde, je ne suis pas sûre que vous puissiez comprendre ce qu'est Star Wars. On est bien au-delà du cinéma. C'est une mythologie. Alors toi, qui n'as pas vu Star Wars, oui, toi, je sais que tu écoutes, toi, va vite regarder ça, parce que vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Et vous, tous les puristes, tous les fans, j'espère avoir été à la hauteur de la tâche et n'avoir pas commis d'impair.
On continue le voyage ?
C'est parti ! Alors, si vous jugez un peu trop risqué de retraverser l'espace à bord d'un vaisseau, j'ai peut-être un autre moyen de transport à vous proposer. Vous me voyez venir ? Que diriez-vous d'un petit tour à travers la Porte des Étoiles ? Stargate, c'est d'abord un film, sorti en 1994 et réalisé par Roland Emmerich. Le speech ? Un archéologue découvre un mystérieux objet en Égypte qui lui permet de comprendre que les pyramides étaient en réalité destinées à recevoir des vaisseaux spatiaux. L'objet découvert dans le désert, la Porte des Étoiles, permet d'ouvrir un vortex qui mène sur une planète lointaine. L'archéologue, accompagné d'un petit groupe de militaires, se rend là-bas. Il y trouve une civilisation proche de celle des anciens Égyptiens. Mais si Stargate est aussi culte aujourd'hui, c'est surtout à cause de la série qui a été adaptée du film et qui a donné naissance à une véritable saga. 10 saisons et plusieurs spin-off plus tard, Stargate raconte les aventures d'un groupe de militaires, SG-1, mené par le capitaine Jack O'Neill, joué par Richard Dean Anderson, qui effectue de régulières missions de reconnaissance un peu partout dans l'espace. Grâce à Daniel Jackson, l'archéologue, et à Samantha Carter, brillante scientifique qui travaille pour l'armée, SG-1 parvient à identifier toute une série de coordonnées. La Porte des Étoiles fonctionne en fait un peu comme ses anciens téléphones à cadran. En tournant un peu par là, un peu par-ci, on compose un numéro. Ne reste plus ensuite qu'à aller faire un petit tour sur une nouvelle planète. Le principe est grosso modo le même que dans Star Trek. Ce que j'apprécie moi dans Stargate, c'est l'humour qui émane surtout des répliques du capitaine O'Neill. Jamais avare d'un petit sarcasme ou d'une blagounette, y compris devant des peuples extraterrestres qui ne le comprennent pas toujours, Jack rajoute une vraie bonne humeur et un côté décalé au ressort traditionnel des explorateurs de l'espace.
On y va ?
Ça marche. Chevron 1, enclenché.
Thank you.
En fait, c'est pas si sécure que ça, la porte des étoiles. Il y a des pannes, on se retrouve pas toujours où on voulait, on rencontre des méchants extraterrestres qui veulent qu'on les vénère comme des dieux. C'est un peu relou. On revient en voyage plus classique à bord d'un bon vieux vaisseau. Surtout que celui-là a carrément la classe. Si je vous dis Serenity, vous me dites...
Firefly !
Bon, toi, tu triches, t'es trop une fan. C'est d'ailleurs grâce à Magali que j'ai découvert cette série. Je t'ai déjà dit merci ?
Oh, sûrement, mais tu peux recommencer, ça me gêne pas.
Alors merci, parce que Firefly, c'est...
C'est trop bien !
Oui, enfin, surtout, c'est...
C'est trop bien. C'est carrément un western de l'espace.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Firefly marie le western et la science-fiction, et le résultat est carrément détonnant. Lancée par la Fox en 2002, la série raconte l'histoire de Malcolm Reynolds, joué par Nathan Fillon, un ancien combattant, qui se retrouve dans le camp des vaincus. Préférant prendre ses distances avec la victorieuse Alliance, il traîne du côté de la périphérie de la galaxie avec une petite équipe de marginaux. Il pilote un vaisseau de type Firefly, appelé ainsi en raison de sa ressemblance avec une luciole. Il a baptisé celui-ci Serenity, du nom de la dernière bataille qu'il a menée contre l'Alliance. Jusque-là, rien qui fasse très western, me direz-vous. Détrompez-vous. Car les confins de la galaxie, c'est un peu le Far West. Sur les planètes éloignées, la vie est rude, les hors-la-loi nombreux et les bars mal famés plus encore. C'est pas parce qu'il pilote un vaisseau spatial que Mal, le surnom du capitaine Reynolds, se prive de six coups et de balades à cheval. Dans ses aventures spatiales, il est amené à prendre quelques passagers, notamment Simon et sa sœur River, qui vont considérablement compliquer son existence. Ce sont en effet des fugitifs recherchés par l'Alliance. La jeune River est dotée de pouvoirs psychiques et possède des informations sensibles qui font d'elle la cible de l'Alliance. En plus de protéger leurs nouveaux amis, Mal et son équipe s'adonnent à toutes sortes d'activités normales dans le Far West de l'espace. Livrer du bétail, faire un peu de contrebande, braquer une banque. Pour une raison qui m'échappe, et qui doit sans doute faire partie d'un complot des forces du mal, Firefly a été déprogrammé par la Fox au bout de seulement une saison.
C'est un complot !
Il a fallu toute l'insistance des fans pour que Whedon, le réalisateur, parvienne à sortir un film qui a le mérite de clore l'histoire. Et avant de passer à la suite, on s'écoute la très belle musique du générique de Firefly.
Take my love, take my land, take me where I cannot stand. I don't care, I'm still free, you can't take the sky from me. Take me out to the black, tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea, you can't take the sky from me. There's no place I can be since I found serenity. You can't take the sky from me.
Et c'est le moment de quoi maintenant ?
On pleure l'annulation de Firefly.
Ouais, non, c'est trop tard maintenant en plus.
Bon, on peut faire l'interview du fan alors ?
Ok, un fan, une interview. Et ce mois-ci, c'est Luc, mon papa, à qui j'ai posé quelques questions.
Bonjour et bienvenue dans l'heure fantastique. Merci d'avoir répondu présent pour cette interview du fan. Peux-tu te présenter à nos auditeurs ?
Bonjour, je m'appelle Luc, j'ai 56 ans et je suis ton père.
No, it's impossible ! J'étais déjà un petit peu au courant. Alors, il me semble que tu es un fan de science-fiction. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es rentré dans cet univers et quelle place il tient dans ta vie ?
Depuis tout petit, j'aime cet univers de la science-fiction. De ces mondes parallèles. Bon, d'abord, il y a Jules Verne, le précurseur, avec son voyage sur la Lune, 20 000 lieues sous les mers, et puis aussi Pierre Boulle avec la planète des singes, et surtout ses adaptations au cinéma qui étaient le Graal pour moi à l'époque. Aujourd'hui, le cinéma et la télé nous offrent des œuvres de qualité comme le dernier Mad Max, ou encore les Avatars, et plein de possibilités au niveau des séries TV qui sont d'une grande qualité. La plus grande place, c'est surtout dans ma bibliothèque où trônent plus de 300 livres de Gigi Arnaud.
Alors justement, il me semblait que c'était de cet auteur Gigi Arnaud dont tu voulais parler pour cette interview.
Mais je l'ai rencontré un peu par hasard dans des puces où j'avais acheté le Peuple des Glaces, du cycle de la Compagnie des Glaces. Et là, je suis rentré à fond dans cet univers. Pour un passionné de train comme moi, c'était fantastique. Gigi Arnaud, c'est le Zola du XXe siècle. Il a tout écrit, policier, espionnage, gore, anticipation, plus de 350 romans. Et surtout le plus célèbre, le cycle de la Compagnie des Glaces. Là, c'est une centaine de romans. En fait, la Terre est devenue glaciaire suite à l'explosion de la Lune et seuls les trains peuvent circuler. Et c'est les compagnies ferroviaires qui gouvernent ce nouveau monde. Je rêve de voir une adaptation au cinéma avec James Cameron aux commandes. Puisque le thème de l'émission c'est l'espace, on peut parler du moment où le héros de cette saga, Lienrag, se retrouve dans un animal de l'espace où les humains ont vécu, le bulbe. C'est une espèce de gros haricot qui fait plus de 50 km de long et voyage dans l'espace à la recherche de sa nourriture, des sorts. Et les humains ont réussi à le maîtriser et à vivre à l'intérieur.
Et une dernière question, si tu devais voyager dans l'espace, quelle planète choisirais-tu comme destination?
Je prends déjà pas l'avion, alors vaisseau pour aller dans une autre planète, encore moins. Moi je préfère mes livres.
On comprend mieux comment tu es devenue une adepte de la science-fiction. Et je suppose que tes enfants hériteront du même goût. Surtout si tu suis les conseils de la fantastique Coralie et de sa bibliothèque jeunesse.
Tout le monde le sait. Pour aller dans l'espace, on a besoin d'une fusée. Et c'est ainsi que s'intitule le livre dont je vais vous parler. Dans cet album, édité aux éditions du Seuil, et destiné aux petits cosmonautes en devenir, Édouard Manceau nous offre un décompte détonnant avant le décollage de la fusée pour l'espace. Au fur et à mesure des pages, et avec des éléments différents, on assiste à la construction de la fusée en direct. 10, briques rouges bien empilées, 9, barrettes bleues, puis 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et décollage. C'est un album ludique et coloré, avec des formes simples, qui, assemblées les unes aux autres, permettent à tous de concevoir la fusée. De la conception au décollage, on suit la fusée en plein vol jusqu'à ce que, boum, elle explose. Et tous les éléments retombent dans le livre. Il ne reste alors qu'une seule chose à faire. Recommencer. Et puis, je vais vous parler de mon coup de cœur intersidéral. Il s'agit de Constellations, un documentaire d'Anne Jankirovitch, publié aux éditions de La Martinière, pour les enfants à partir de 6 ans. Depuis que je l'ai vu, je le mets entre toutes les mains. Ce livre, il est beau, il est beau, il est beau. Et surtout, il est fait pour que vous l'emportiez avec vous dans votre découverte de la voûte céleste. C'est une invite à s'allonger le soir dans l'herbe, attendre que la nuit tombe, et plonger tête la première dans les étoiles. Il vous aidera à repérer les constellations. À vous la grande ours, Hercule et Cassiopée. À chaque page, vous en apprendrez plus sur la manière dont elles sont composées, mais aussi sur leur histoire. Et si, comme moi, vous aimez passer vos soirées parmi les étoiles, vous serez heureux d'en apprendre plus sur les chouettes, les chauves-souris, les satellites et tout ce qui n'est visible que la nuit. Parce que, ah oui, ce livre, il est phosphorescent. Et ça, ça le rend encore plus génial.
Faites confiance à Coralie et filez en librairie.
L'ASF, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Bon, il y en a qui n'ont pas vraiment eu cette éducation, mais ils font ce qu'ils peuvent pour se rattraper. Karine, par exemple, n'avait jamais vu Alien avant de préparer cette émission. Pour nous, elle l'a fait.
Tout de suite, la chronique de la débutante. I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Until I found you, I was beat, incomplete. I've been half, I was sad and blue. But you made me feel, yeah, you made me feel shiny new. Like a virgin,
Pour cette émission de rentrée consacrée à l'espace, j'aurais pu enfin regarder Star Wars. C'est vrai, j'aurais pu. Mais je crois que je fais un blocage. Non, pour cette émission de La Tête dans les Étoiles, j'ai choisi d'aller voir du côté d'un autre film culte de la science-fiction. J'ai regardé Alien, le premier du nom, le 8e passager. Et comme le hasard fait bien les choses, mon cinéma préféré le programmait tout l'été dans le cadre d'une rétrospective sur les créatures de cinéma. Cette fois, pas de streaming qui rame et un vrai écran. Aucune excuse pour ne pas profiter du film. Commençons par un petit pitch rapide. Nous sommes en 2122. Le Nostromo est un cargo commercial de l'espace. Alors qu'il rentre vers la Terre avec sa cargaison, un signal provenant d'une planète inconnue interrompt sa course. Maman, ah oui, c'est le petit nom donné à l'ordinateur de bord. Maman, donc, réveille l'équipage. Le contrat passé avec la société qui les emploie oblige les 7 astronautes à se détourner pour enquêter sur une possible vie extraterrestre. Pendant qu'une partie d'entre eux tente de réparer la navette endommagée par un atterrissage compliqué, leurs compagnons partent en exploration et ne tardent pas à découvrir l'épave d'un vaisseau extraterrestre. L'un d'entre eux se fait alors agresser par une forme de vie inconnue qui, tel un parasite de l'espace, prend en partie possession de son corps.
Je dirais qu'il y a une vie organique.
Commence alors un huis clos terrifiant au cours duquel nous assistons, mi-angoissés, mi-dégoûtés, à la recherche par l'équipage de l'alien dans les méandres du Nostromo. Mon verdict ? Je suis frustrée. Je dois confesser que mon petit plaisir tient surtout à pouvoir me moquer, gentiment ou pas, des films mal ficelés, mal joués, aux effets spéciaux ratés ou un peu ridés. Et bien là, rien de tout ça n'est possible. Pas de suspense inutile, j'ai adoré Alien. Et pas uniquement parce qu'il y a un charou, je vous vois venir. Le scénario et la réalisation sont impeccables. Le jeu des acteurs également, avec une mention spéciale pour le personnage de Ripley incarné par la géniale Sigourney Weaver. L'ambiance sombre, voire même parfois un petit peu sinistre, et le fait que l'action se déroule dans un milieu confiné, contribuent à une montée progressive de la tension, à l'installation d'un suspense bien dosé, qui m'a tenu personnellement en haleine jusqu'à la dernière minute. Le rythme pourrait sembler un peu lent à certains, notamment dans la première partie, et pourtant, il n'empêche absolument pas l'histoire d'avancer. Côté effets spéciaux, je ne vous cache pas que c'est un petit peu ici que je m'attendais à sortir les moqueries. C'est loupé. Pour un film de 1979, c'est-à-dire qu'il est presque aussi vieux que moi, imaginez donc, je le trouve particulièrement bien conservé. Moi aussi, soit dit en passant, mais là je m'égare un petit peu. D'ailleurs, c'est toute l'intelligence de Ridley Scott, le réalisateur du film, vous l'aurez compris. Il a créé une bestiole, sorte d'araignée poulpe visqueux qui devient ensuite un truc chelou avec des dents. Bref, une bestiole absolument dégoûtante et terrifiante, alors qu'au final on la voit assez peu à l'écran. Une façon rusée de renforcer la tension sans pour autant bouffer tout le budget du film en maquillage et effets spéciaux. En résumé, j'avais peur d'un blockbuster un peu lourd, d'un excès de scènes d'action et d'effets spéciaux, ce qui n'est mais alors vraiment pas ma tasse de thé. C'est tout le contraire. Ridley Scott a choisi de privilégier l'ambiance à l'action, sans pour autant qu'on s'ennuie une seule seconde. Avant de le voir, j'avais beaucoup lu qu'Alien était un chef-d'œuvre, un film culte. J'étais dubitative. Maintenant que je l'ai vu, je ne suis pas loin de penser que c'est mérité. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez plus une seconde. De mon côté, je file combler une de mes nombreuses lacunes pour la prochaine émission. Et qui sait ? Peut-être que d'ici là, j'aurai vu Star Wars.
Elle a du courage, Karine, de se lancer comme ça dans le visionnage des grands classiques. Mais pour être honnête, c'est pas vraiment elle qui a hérité de la partie la plus difficile. Parce qu'il y a les films cultes, les incontournables, et puis...
Et puis, il y a le cinéma pour jouvencelles, les navets manichéens et bien-pensants, au patriotisme douteux et au romantisme mielleux. Bref, il y a les films de pucelles.
C'est vrai ce qu'on dit, que vous êtes le fils d'un démon et d'une pucelle ?
Ouais, pourquoi ?
Vous avez plus pris de la pucelle.
Alors, ce mois-ci, notre film de pucelle emmène littéralement des jouvencelles dans l'espace.
Et des jouvenceaux.
Sommairement, Space Camp, 1986, réalisé par Harry Winner, on vous laisse découvrir.
Mais pourquoi tu veux tant partir dans l'espace ?
Dans l'espace ? Je crois que tout est possible. Je sais pas, mais je crois qu'on pourrait faire les choses bien là-haut. Essayer de ne pas tout bousiller comme on l'a fait ici.
Oui, mais est-ce que ça en vaut la peine ? On finira tous par sauter de toute façon.
Kevin, ça c'est juste une excuse qui n'est bonne que pour ceux qui ont peur d'essayer.
Voilà, c'est un peu gênant. Et là, c'est que 30 secondes. En tout, nous, on s'est fait 2 heures de film quand même. Space Camp, c'est donc l'histoire d'une colonie de vacances dans un camp spatial au centre Kennedy à côté de Cap Canaveral. On a une centaine de mômes quasiment lâchés dans un vrai centre spatial, c'est logique. Le film se concentre sur un petit groupe de 5 gamins et leur animatrice, qui est en réalité une pilote émérite et qui, au lieu de se voir confier une vraie mission spatiale, se retrouve à faire la nounou. Plus ou moins bien. D'ailleurs, un des gosses, Max, 8 ans, échappe à sa surveillance et carotte carrément un robot à 27 millions de dollars. Enfin, on suppose, parce qu'on passe direct d'une scène où un technicien bricole avec le robot à une autre dans laquelle Jinx, donc le nom du robot, se retrouve dans le placard de Max. 27 millions de dollars.
C'est important, on ne le répétera jamais assez.
Jamais. Et c'est comme ça que Max et Jinx deviennent...
On est amis à jamais.
Amis à jamais.
C'est beau.
27 millions, un Tamagotchi à 27 millions de dollars.
Par des circonstances qu'on n'expliquera pas, parce que c'est relou. Jinx, pour faire plaisir à Max, envoie tout le petit groupe dans l'espace. En fait, les gamins sont censés simuler un décollage dans une navette, parce que c'est une vraie activité de colonie de vacances. Non, en fait, non, c'est pas une... Mais bon, passons. Sauf qu'ils simulent pas du tout, et que la navette décolle vraiment. Tout ça à cause de Jinx, qui a carrément reprogrammé l'ordi de la NASA, sans que personne ne s'en rende compte. Pour le moment, je résume un peu... On est dans un film où un enfant de 8 ans vole un robot à 27 millions de dollars et ce même robot fait décoller des fusées. Ça a changé la NASA. Ajoutez à ça le reste du groupe, des ados américains dans les années 80, et vous avez saisi l'ambiance.
Wow, super ! Ton Dieu, Catherine !
Si c'est toujours pas le cas, on vous renvoie au premier extrait. Bon, bien évidemment... Tout se finit bien, Jinx a même le droit à un petit cadeau.
Jinx, je t'offrirai un bidon d'huile.
Space Camp a fait un gros flop, parce qu'il a eu le malheur de sortir 5 mois après l'accident de la navette Challenger. Et disons-le franchement, c'est pas. Vous pouvez le regarder, si vous voulez. Mais réécoutez le début de l'émission, notez les films et les séries dont on vous a parlé, plutôt que Space Camp. Et de manière générale, les films de l'espace des années 80, méfiez-vous. On va finir cette chronique sur ce qu'il y a de moins pourri dans ce film, sa BO, composée quand même par John Williams. Ouais, alors c'est quand même un film de pucelle, hein. Vous attendez pas à Star Wars.
Pour cette dernière rubrique consacrée aux conseils à donner à nos auditeurs, nous allons très logiquement nous lancer dans l'aventure spatiale. Vivre sur Terre, c'est complètement out. Et si on allait s'installer ailleurs ? Oui, mais comme pour tout voyage, il faut savoir se préparer. Et comme d'habitude, tous les conseils, toutes les astuces sont sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. Ça tombe bien, nous accueillons aujourd'hui Florence Porcel, auteure, comédienne, animatrice, mais aussi et surtout passionnée de science et d'exploration spatiale. Une passion illustrée notamment dans son podcast vidéo « La folle histoire de l'univers », ainsi que dans ses chroniques sur France Inter. Surtout, Florence Porcel a fait partie des candidats retenus pour le projet Mars One, qui envisage d'envoyer des êtres humains vivre sur Mars, même si elle n'a malheureusement pas été parmi les 100 derniers sélectionnés. Tout ça pour dire que nous avons une spécialiste parmi nous qui va pouvoir nous aider à préparer nos valises. Bonjour Florence Porcel et merci d'avoir répondu présente pour cette interview.
Mais avec plaisir.
Alors au cours de cette émission, nous avons voyagé à bord de l'Entreprise, du Faucon Millennium et du Serenity. Ça a donné quelques idées à nos auditeurs qui envisagent déjà d'aller passer leurs prochaines vacances dans l'espace. Quels conseils pouvez-vous leur donner pour préparer leur voyage ? Que doivent-ils emporter dans leur bagage ? Quels moyens de transport privilégier ? Comment éviter d'être malade pendant le trajet ?
Alors, quoi emporter dans ses bagages ? Déjà, de quoi s'occuper ? Parce que dès qu'on voyage dans l'espace, ça prend un tout petit peu de temps. Hein. Donc, même à des vitesses très très élevées, on a vraiment le temps de s'ennuyer. Donc, de quoi s'occuper, ça me paraît être la meilleure manière de préparer un voyage dans l'espace. Quel moyen de transport privilégier ? Ben, un moyen de transport solide, j'ai envie de dire. Et rapide, et d'autant plus solide qu'il est rapide, puisque plus on augmente en vitesse, plus le risque de dégâts à cause d'un petit impact, d'une poussière, je ne sais quoi, est grand et dangereux, donc un vaisseau solide. Et la troisième question, c'était...
Comment éviter d'être malade pendant le trajet ?
Ah oui, comment éviter d'être malade ? Ben, c'est bien de s'entraîner avant, peut-être ? Pour habituer son corps au désagrément de ce genre de voyage, et puis éviter de, je sais pas, moi, éviter de tourner la tête dans tous les sens, de trop bouger, enfin voilà, sinon effectivement on est malade. Mais ça passe très vite, hein, le mal de l'espace, ça passe relativement vite, le corps s'habitue.
Bon, c'est une question d'habitude comme le mal de mer, quoi.
Voilà.
Alors, une fois le voyage entamé, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre, des astuces pour éviter les mauvaises rencontres, les accidents et, de façon générale, la mort dans d'atroces souffrances ?
La mort dans d'atroces souffrances, je ne sais pas, parce que la mort dans l'espace, a priori, ça se passe tellement rapidement que je ne sais même pas si on a le temps de souffrir vraiment. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, pour éviter les mauvaises rencontres, tout dépend de quelle mauvaise rencontre on parle. Si on parle d'un astéroïde, a priori, un bon petit radar devrait faire l'affaire, mais encore faut-il ne pas voyager à des vitesses trop élevées pour avoir le temps de les détecter et de détourner le chemin. Les accidents, bah, soyez prudents, vous endormez pas au volant. Voilà.
Bon, et les mauvaises rencontres, à part les astéroïdes, par exemple, il n'y a pas d'autres risques à prévoir ?
Oh bah l'espace est tellement vaste que même si on croise un autre vaisseau, a priori, on le croiserait de très très loin. Donc je pense que ça devrait aller.
Alors maintenant que nos auditeurs sont parés pour affronter tous les dangers de l'univers, on pourrait terminer sur une note un petit peu plus positive. Est-ce que vous auriez une destination à leur conseiller ?
Oh oui. Moi je verrais bien une planète peuplée uniquement de manguiers, de petits chats mignons et d'une île où il y aurait des dinosaures. Ça, ce serait plutôt cool comme destination. Moi j'irais tout de suite.
Ah oui, moi aussi, là je vous rejoins immédiatement. On a les coordonnées pour partir ?
Hélas non, pas encore, mais je cherche.
Vous voilà parés, chers auditeurs.
Une bonne bibliothèque, un bon radar, de l'entraînement et vous pourrez entreprendre le voyage.
Mais ne partez pas trop loin, car on se retrouve en février pour une émission consacrée aux vampires. En attendant,
soyez prudents, car vous le savez bien,
ils sont parmi nous.